RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Ils se surnomment les aventuriers ou les voyageurs. Certains migrants d'Afrique subsaharienne en route vers l'Europe s'arrêtent en Algérie. Cet arrêt est au départ temporaire, mais de plus en plus d'hommes et de femmes restent en Algérie plusieurs années. Sans titre de séjour, ils n'ont pas le droit de travailler, difficile de trouver un logement, d'inscrire les enfants à l'école, difficile aussi de s'intégrer dans une société algérienne qui se méfie encore beaucoup des étrangers. Algérie, quand les migrants s'installent, grand reportage signé Leïla Berrato, Leïla que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
Je suis Camerounais, migrant en Algérie.
Depuis combien de temps est-ce que tu es ici ?
15 ans.
Au début, quand tu es parti, est-ce que c'était pour t'arrêter en Algérie ?
Non. Au départ, c'était pour l'Europe, et précisément l'Allemagne. J'ai fait un long périple avant de me retrouver. Et je suis allé du Cameroun vers le Nigeria, vers le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Je suis allé en Libye. Je suis rentré en Algérie. Je suis allé au Maroc. J'ai tenté une fois. J'ai pas pu tenter. J'ai vu le risque que je courais. Je suis revenu. Après maintenant, je fais l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Mais cette fois-ci, en avion comme ça.
Il se protège de l'humidité de l'hiver dans une doudoune bleu marine. Cet homme de 45 ans qui demande à rester anonyme vit dans une banlieue d'Alger, en bord de mer. Comme plusieurs milliers d'autres migrants, il s'est installé dans la capitale, bon gré mal gré.
On reste parce qu'on est obligé de rester. C'est pas parce qu'on veut rester. La fermeture de plus en plus de frontières européennes, fait qu'on reste. C'est un peu difficile. Je dis un peu, mais c'est vraiment difficile. Dans les bus, on l'appelle le subsaharien Ebola. Tu vois, c'est frustrant. Parfois négro, parfois babaye. Tout ça. On supporte parce qu'on n'a pas mieux.
Malgré 15 ans de présence sur le territoire, ce Camerounais est toujours considéré comme un migrant irrégulier, un statut qui le maintient dans l'insécurité.
Le 2 janvier, je me suis fait agresser dans un taxi clandestin. Et une fois que je suis allé à l'hôpital, tu sais ce qu'on m'a dit en premier ? Donnez-moi vos papiers. Moi, je saignais, on me demande les papiers. Il y a cela 5 à 6 mois, par exemple, il y a eu un cas de viol sur des femmes migrantes sur Oran. Elles sont allées se plaindre et c'est elles qui ont été arrêtées. Est-ce que parce qu'on n'a pas de papiers, on ne peut pas se plaindre ? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas de papiers que dans ces abris de fortune, on peut être sorti à minuit? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas de papier que dans ces abris de fortune, on n'a pas droit à l'électricité pour se chauffer?
Luc a 32 ans, il a un passeport malien et il est arrivé en Algérie il y a 9 ans.
J'ai vécu à Agra, Tabaracet, puis je suis allé à Oran. Oran était un petit peu ouvert parce que là-bas il y avait une diversité culturelle. J'ai trouvé plusieurs nationalités là-bas avec qui on pouvait discuter, les Ivoiriens, les Congolais, les Tchadiens, les Maliens. C'était bien, mais le seul problème de l'Algérie, c'était qu'on ne pouvait pas trouver de boulot. Il n'y avait pas de boulot. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de boulot. Tout ce que tu peux faire, c'est dans le bâtiment, la maçonnerie. Bon, il faut avoir assez de force pour la maçonnerie, non ?
Son permis de travail, impossible d'obtenir un emploi stable et les chantiers lui permettent à peine d'avoir de quoi vivre.
Tu ne peux pas faire de l'économie en Algérie, c'est difficile. Parce que tu vas gagner, je crois, 15 000 dinars par mois. Et tu vas payer ta location 10 000 dinars. Pour une maison qui ne... Juste pour se couvrir, parce que ça, ce n'est pas des maisons, ça.
Ces deux hommes vivent dans la même maison. Au bout d'un chemin de terre, la carcasse en béton d'un immeuble qui n'a jamais été terminé abrite une trentaine de personnes, dont Rostan, qui vit là depuis 9 ans.
C'était un bunker, je ne sais pas si ce n'est pas un bunker ou un ghetto. C'était un immeuble inachevé. Les toilettes ne sont pas très praticables. tu vois, c'est une toilette pour 9 chambres. 9 chambres, ça veut dire environ 30 personnes. Voilà, mais le bailleur, lui, c'est pas son problème. Il veut son loyer et tout. Si tu veux pas, tu vas ailleurs, tu te démettes comme il dit. C'est un peu ça. Si je suis là, c'est parce que je suis coincé. Sinon, je serais parti il y a longtemps. Je suis allé au Maroc pour essayer de voyager, mais j'ai vu les conditions du voyage, la mer, tout ça, j'ai pas voulu. C'est pour ça que je suis revenu. J'ai fait 8 ans, 9 ans ici. Si je vais en Tunisie, c'est pour recommencer à zéro. J'étais au Maroc, c'est la même chose. Donc, si je quitte ici, c'est pour aller où je peux travailler, où je peux être à l'aise, où je peux fonder une famille. C'est pour ça que je suis encore là.
Pour éviter les contrôles de police ou les agressions, ces hommes et ces femmes restent très souvent enfermés à l'intérieur. Mais de temps en temps, les communautés organisent des fêtes. Ce jour-là, les Camerounais ont prévu un match de football dans un stade du quartier.
Il n'y a personne derrière, regardez, les gosses sont vides, il n'y a personne, ouais.
Yvette, tout sourire, habillée d'un polo de sport gris, a quitté son pays il y a 2 ans. Elle fait partie des organisateurs de la journée.
Oui, le but aussi c'était de se décoincer parce qu'on est un peu enfermé dans le pays. Non, on se décoince un peu, on sort, on danse. Comme par exemple mercredi, on va danser au son de la musique camerounaise, européenne, américaine, tout et tout.
Et ça, vous, quand vous êtes dans des moments comme ça, ça vous fait du bien, vous vous sentez mieux?
Oui, ça me fait du bien, je me sens mieux parce que des occasions comme ça me rappellent un peu aussi le pays. On a la nostalgie du pays.
Et tout le monde a la nostalgie du pays?
C'est vrai, tout le monde. Il n'y a personne qui peut pas, il n'y a personne ici qui peut dire ne pas avoir la nostalgie du pays dans les moments comme ça. Parce que même ce que nous faisons là au pays, on organise des championnats de vacances et tout, on se retrouve. Au pays, on a toutes les possibilités de se retrouver.
Au-delà des compétitions sportives ou des soirées dansantes, les communautés mettent aussi en place des systèmes de solidarité et organisent des célébrations traditionnelles. Oran, à l'ouest de l'Algérie, a la réputation d'être la ville où les migrants sont les plus nombreux. Les associations estiment qu'ils sont 6 000. Là, c'est sur un stade de foot à ciel ouvert qu'une centaine de personnes rendent hommage à une dame migrante qui est décédée quelques jours plus tôt. Au bord du stade, Henri observe le défilé. Ce jeune Nigérian de 20 ans est arrivé au début de l'année avec son frère. Son séjour en Algérie ne se passe pas comme il l'avait imaginé.
La personne qui nous a invités ici nous a dit que l'Algérie était un bon pays, mieux que chez nous, et qu'on pourrait jouer au football. On n'avait jamais rien vu ou entendu sur l'Algérie, alors on l'a cru. On ne s'attendait pas à ça du tout. C'est trop dur l'Algérie. Quand tu rencontres quelqu'un, il te demande « tu es musulman ou tu es chrétien ?» Certains, comme mon frère, finissent par dire qu'ils sont musulmans alors qu'ils ne le sont pas. Pour pouvoir les fréquenter, tu dois être musulman, et quand tu viens pour jouer au foot avec eux, ils te répondent « non, on ne peut pas jouer ensemble. Nous, on est européens, toi tu es un noir. »
La plupart des personnes qui sont installées le répètent. Si elles le pouvaient, elles partiraient. Mais comme l'affirme cet homme, très mince, qui porte de grandes lunettes noires, après tant d'années, il est difficile de rentrer chez soi.
Mais si je rentre comme ça, sans un CFA, c'est l'échec pour moi. Forcément, c'est l'échec. Donc je peux pas partir. Ma mère, elle n'est pas fière de moi. Je suis désolé. J'ai 35 ans, je suis un monsieur. Je suis quand même... je devais pas te traîner là, quoi. Parce que je sais pas, j'ai rien à foutre ici. Rien. S'il faut dire à les petits frères, je préfère qu'ils comprennent. Ceux qui s'aventurent tous les jours à rentrer ici, c'est pas la peine. Parce que de toutes les façons, ce que tu trouveras ici, c'est pire encore que ce qui est au bled.
À Oran, au quotidien, ce sont les associations, mais surtout l'Église, qui tentent d'aider les migrants.
Moi, je suis Thierry Becker, prêtre du diocèse d'Oran depuis plus de 50 ans, et je me trouve chargé de cette paroisse depuis déjà 7 ou 8 ans. Et c'est dans la paroisse que j'ai vu arriver de plus en plus de migrants subsahariens qui nous exposaient la situation, et c'est à partir de cette présence des migrants dans la paroisse que notre action à plusieurs s'est orientée à leur service. Ici, sont principalement Camerounais, et il y a une grosse minorité nigériane et une autre minorité libérienne. C'est sûr que les gens sont persuadés qu'en arrivant en Algérie, c'est le bonheur. Alors quand elles arrivent, surtout les femmes, hein, c'est la catastrophe. Hein.
La principale préoccupation est l'accès des migrants aux centres de santé. En quelques années, les choses se sont améliorées, comme l'explique cet homme qui a vécu 10 ans en Algérie et qui travaille pour une association.
Quand tu allais à l'hôpital, je te faisais arrêter, interroger, contrôler, arrêter, refouler, menotter pendant que tu accouches. Donc il y a beaucoup qui se laissent mourir parce qu'il y a encore ces idées-là, jusqu'en fin 2011 encore. Il y avait beaucoup de problèmes d'accès aux soins, pas parce que les médecins refusaient de faire leur travail, mais parce que les migrants subsahariens, ça c'est pas le cas avec les Palestiniens ou avec les Irakiens ou voilà, les migrants subsahariens étaient directement interpellés à l'entrée ou à l'accueil, on va dire que je suis 10 personnes, il y a 5 ans, 8 se faisaient contrôler, interpeller et parfois refouler. Aujourd'hui, je suis 10, les 10 arrivent à avoir accès aux soins.
Ce sont ces associations qui travaillent aussi pour aider les femmes migrantes. Alors qu'il n'y a aucune possibilité de travail, le parcours de certaines passe par la prostitution. Cette jeune femme est arrivée du Cameroun il y a 6 ans.
À Tamaracet, j'ai été vraiment coincée par là, parce que là, déjà, mon argent était fini. Et en plus, je suis tombée dans un ghetto de migrants. Bon, c'était des Nigérians. Tu vois, et leur travail était un peu de faire passer des gens de Tamaracet à Alger. Tu es nouveau, tu ne connais pas la route, tu ne connais rien du tout. Tu as peur, on va te dire que non, si tu vas, tu peux te faire arrêter. Donc, peut-être il faut que tu t'habilles comme ceci là, il faut que tu aies tel document, même si c'est un faux. Mais ce sont ceux qui connaissent, donc du coup, tu es obligé d'adhérer. Et pour les femmes, par exemple, ils ont des contacts, soit à Alger, soit au Oran, des personnes qui voudraient être avec des femmes. Mais toi, la femme, tu ne sais pas. Donc, tu dis, bon, il y a telle personne qui a besoin d'une femme. Il va te dire d'une femme pour faire quelque chose, pour faire un travail. Mais ce n'est pas du travail. En fait, il a besoin du commun, il ne te dit pas de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il va envoyer l'argent afin qu'on te fasse partir. Moi, je suis passé par là. Mais je savais pas, c'est arrivé. Je suis bien là. Il m'expliquait, non, ça va aller, il n'y a pas de problème, je vais prendre soin de toi, voilà, tu vas m'aider à faire ça. Mais pas dans le détail. C'est quand j'arrive que je me suis rendu compte qu'en fait, je me suis retrouvé en couple, sans l'avoir préparé, sans l'avoir... Et puis, c'est vrai, tu vois un homme, à peine tu arrives, bon, il a pris soin de moi, il m'a acheté le nécessaire de toilette, je me suis lavé, si j'avais quelque chose, téléphone et tout ça. Du coup, tu te laisses aller.
Aujourd'hui, elle travaille avec les associations et la paroisse, notamment pour défendre les droits des femmes face aux actes de violence.
Il y a beaucoup de délinquants, peut-être aussi comme au Cameroun. Mais ici, là, des délinquants avec des couteaux, là, moi, ça me fait très peur. Parce qu'il y a beaucoup de migrants qui se sont fait agresser. La question, c'est aller porter plainte sans avoir un titre de séjour. C'est un peu compliqué. Mais seulement, grâce au travail qu'on fait, il y a une brigade au niveau de Yamourassen, là, qui a quand même fait, qui nous a aidé à faire des choses quand même. Après, on a eu à porter plainte pour des femmes sans qu'elles se fassent arrêter. Déjà arrivé. Et c'est ce côté qu'on est en train de percer, quoi. Avoir ce genre de réseau. Mais là, il faut sensibiliser la société civile et les institutions à ce propos-là. Il y a encore du travail. Il faudrait qu'on y arrive parce que c'est important. Puisque les migrants sont là, il faut faire quelque chose pour eux.
Algérie, quand les migrants s'installent, un reportage de Leïla Berato, réalisation du Divine Amado.
Berato, bonjour.
Bonjour Laurent.
Comment ces migrants arrivent jusque dans les capitales ?
Eh bien, pour ceux qui sont arrivés il y a 10 ans, comme pour ceux qui arrivent maintenant, le chemin est plus ou moins le même. Depuis le nord du Mali ou le nord du Niger, des camions ou des 4x4 emmènent ceux qui le veulent jusqu'à la frontière algérienne. Une fois la frontière passée, ils se dirigent vers Taman Rasset. Et à partir de là, tout dépend du réseau de connaissances. Certains sont attendus à Alger ou à Oran par quelqu'un de leur communauté et ils montent dans les lignes régulières de bus algériens. D'autres passent d'abord du temps à Taman Rasset pour économiser de l'argent avant de repartir vers les grandes villes du nord du pays.
Leïla Berato, on entend dans votre grand reportage des personnes qui expliquent qu'elles sont coincées en Algérie. Alors pourquoi les migrants ne peuvent-ils pas changer de pays ?
Au départ, pour la plupart des personnes que j'ai rencontrées, l'objectif était l'Europe. Mais depuis 2007-2008, les frontières se sont fermées. Certains ont tenté de passer la frontière marocaine, puis la frontière espagnole, plusieurs fois, sans succès. D'autres ont pris le bateau pour aller en Italie, ils ont réussi, puis ils se sont fait arrêter là-bas, expulsés dans leur pays, et ils ont fini par revenir en Algérie. Alors partir plus au nord, c'est donc compliqué, et rentrer chez eux, c'est impossible, selon eux, car ils n'ont pas atteint leur objectif, ils n'ont pas réussi, ce sont leurs mots. Et puis, il y a deux autres facteurs à prendre en compte. La Libye est devenue trop dangereuse, et après la révolution tunisienne, beaucoup de migrants qui vivaient en Tunisie n'ont plus trouvé de travail, et selon toutes les personnes que j'ai rencontrées, malgré toutes les difficultés en Algérie, il y a du travail, et il y a de l'argent à gagner, plus que dans leurs pays respectifs.
Vous disiez que les migrants sont de plus en plus nombreux. Comment est-ce que les Algériens réagissent à leur installation dans le pays ?
Eh bien, c'est la chose la plus compliquée à saisir. D'abord, les migrants le disent eux-mêmes, ils sont régulièrement insultés ou agressés. Et c'est vrai qu'ils ont une vie sociale à l'écart du reste de la société. Mais il y a des liens, puisque des Algériens, des chefs d'entreprise leur donnent du travail. De nombreux chantiers dans le pays, que ce soit dans le sud comme dans les villes du nord, sont réalisés grâce aux migrants payés à la journée. Ce sont aussi des migrants qui font certaines récoltes agricoles. Il y a donc les propriétaires qui louent leur maison, ceux qui louent les espaces pour faire la fête, ou encore les enfants des quartiers qui viennent jouer au match de foot avec les migrants. Du point de vue de leur statut, les associations font des progrès petit à petit. L'accès aux soins est plus simple désormais dans les grandes villes. L'Église d'Algérie a obtenu l'autorisation de rendre visite aux migrants chrétiens incarcérés. Tout cela veut dire que la société réalise aujourd'hui la présence des migrants et que les autorités commencent tout doucement à les prendre en compte.
Ce sera le mot de la fin. Grand reportage à réécouter sur RFI.fr. Leïla Berato, merci beaucoup.
Accent d'Europe vous propose...